Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce footpod consacré aux journées 7 et 8 des European Qualifiers, bref, la campagne de qualification pour l'UEFA Euro 2020 TM, qui se déroulera partout sauf en France, parce qu'on l'a eu en 2016, donc on n'avait pas le droit. Voilà. Et donc, Yann est pressé d'évoquer tous ces fabuleux matchs.
Évidemment, évidemment, Nico.
Voilà, on a un petit peu de retard parce qu'on a décidé de digérer ça. On s'est dit, il faut qu'on revoie le match contre l'Islande plusieurs fois pour mieux l'analyser.
À moi, alors perso, j'ai regardé Kosovo-Monténégro 3 fois, je suis au taquet.
Ouais, mais c'est bien, c'est le groupe A. Mais d'abord, il y a République Tchèque, Angleterre, qui était arbitré par le formidable Damir Skomina.
Ah,
Voilà.
Sposco.
Bref, j'ai foiré ma blague, c'est pas grave. Heureusement, Brabec n'a pas foiré sa frappe à la 9e minute pour la République tchèque, ni Ondrasek à la 85e, ce qui permet à la République tchèque de l'emporter 2-1, car Kane avait réduit, enfin avait ouvert le score plutôt à la 5e minute sur penalty. Et malheureusement, je crois que c'est l'alinéa 1 de l'article 48 de la sous-section 32 qui dit que les pénaltys anglais ne comptent pas double lors des European Qualifiers. Sauf si, en Ligue des Nations, le Kosovo a fait match nul contre l'Arménie, en considérant que si géographiquement les deux pays sont pas assez proches, ça passe.
Ça y est, alors deux choses, Nico. Tout d'abord, bravo parce que t'avais foiré ta blague, mais t'as réussi à te rattraper avec une transition merveilleuse. Et d'autre part, ouais, je suis d'accord, t'as expliqué à peu près toutes les règles de qualification de l'Euro 2020,
Des
à peu près.
pénaltys de l'Angleterre à l'extérieur. Voilà.
Oui, t'avais voulu te préciser à l'extérieur.
Ah oui, parce qu'à domicile, c'est différent.
L'important, c'est les 3 points.
Voilà. Pendant ce temps-là, au Podgorica City Stadium de Podgorica, Andreas Hegerberg a arbitré un magnifique match nul de partout entre le Monténégro et la Bulgarie.
De partout? Moi j'avais noté 0-0.
Ah non, non, il y a eu deux cartons jaunes partout.
Ah oui, d'accord.
Bagator à
Tu
la 30e et
m'as
Jankovic à la
fait peur.
95e pour le Monténégro.
On est
T'es
d'accord,
pas
c'était la
sûr
seule
que...
animation de ce match.
Ah ouais, il va bien trouver quelque chose à dire. Enfin, je pense que même s'il y avait eu 4-3, je pense que, bon, Monténégro-Bulgarie, ça ne vaut pas un petit Kosovo-Monténégro qui s'est conclu donc sur un score de 2 à 0
Là, au moins, il y
avec
a eu des
but
buts.
de Ramani et Muriqi. Ça doit pas du tout se prononcer comme ça, mais c'est pas grave. Au stade de Fadil Vokri, à Pristina. Oui, il y a deux R, donc je fais Vokri. Voilà. Et donc, vu que tu l'as vu 3 fois, bah là, pour le coup, il y avait un 4-3 hein, au niveau des cartons. Enfin, un
Ouais,
3-4 au
ouais.
niveau des cartons jaunes. Mais 2-0 au niveau des buts. Et bah, c'est encore les buts qui comptent. Hein.
Bah, c'est ce qui
Ouais, tu me
maintient le
diras,
Kosovo dans la course au.
le fair play doit compter, mais en 8e ou 10e condition de départ, pour départager deux équipes. Donc, bien
Ah bon,
avoir,
bah, c'est ce qui maintient le Kosovo dans la course au à la qualification.
Et pourquoi donc?
Parce qu'en parallèle, l'Angleterre a mis une branlée à la Bulgarie à l'extérieur.
Ouais, mais il n'y a pas eu de penalty. Kane y a
Non,
marqué
et
dans le jeu et signé 3 passes décisives. Une pour Barclay, deux pour Sterling. Sterling qui fait une passe décisive aussi à
qu'il y
Barclay,
avait Gamel
tandis que
qu'on
Barclay fait
double?
une passe décisive à Rashford. Et voilà, la boucle est bouclée. Ivan Bebek, il était content. Hein, il a renvoyé 6 fois les Bulgares dans le rond central. Enfin, 7 avec le coup d'envoi ou la mi-temps. Au stade Vasilevski de Sofia. Et donc, ça nous fait un superbe classement qui donne l'Angleterre barragiste de la Ligue des Nations ben avec 15 points, mais pas encore qualifié, parce que le Kosovo, lui, est troisième avec 11 points, mais bon, il a la possibilité d'aller au barrage, et la République tchèque entre les deux avec 12 points. Malheureusement, mathématiquement, c'est fini pour le Monténégro, la Bulgarie.
Ouais.
Ah, ça manque de Kostadinov en Bulgarie. Hein.
Ouais.
Et ça manque de, surtout, dernier match au Parc des Princes. 26 ans déjà. Enfin, pas tout à fait. Bientôt. C'est plus que c'était, la Bulgarie, hein. Je suis déçu. Franchement, je suis déçu, tu vois, qu'il soit derrière le Kosovo et potentiellement derrière le Monténégro, quoi.
Ouais, parce que c'est vrai que la Bulgarie, Israël et la Roumanie, il y aura un... Actuellement, il y a un tirage au sort pour savoir lequel des trois remplit lequel des trois ira en voie C pour les éliminatoires et lequel des deux trois autres iront. Enfin bref, t'as compris. Non, parce que c'est l'UEFA, donc t'as rien compris. Mais la Bulgarie peut se retrouver dans la voie A.
À la fin, c'est celui qui a la plus grosse valise qui se retrouve dans la voie A.
Non, mais voilà, Bulgarie, Israël et Roumanie sont au tirage au sort pour le moment pour savoir qui jouera les playoffs A, si tu veux. Avec la Suisse et l'Islande, quand même.
J'ai mal à la tête.
Remercie. J'ai mal à la tête.
Heureusement, c'est plus
clair. La dernière œuvre de Gianni à l'UEFA.
C'est plus clair. Enfin, le mec, en 2 ans, il a fait plus de trucs pourris à l'UEFA que dans les 60 précédentes années cumulées, quoi. Et encore, la moitié de ses idées, elles ont été retoquées, hein, parce que... Bref, groupe B. Le Portugal recevait au l'Estadio José Alvalade de Lisbonne l'arbitre Daniel Stefanski et l'équipe luxembourgeoise qui s'est fait taper un petit 3-0, Silva Ronaldo Guedes, dans le même temps avec 2 heures de décalage. L'Ukraine tapait la Lituanie chez elle, Malinovski signait 2 buts au stade métallique de Kharkiv. Devant le formidable arbitre autrichien Harald Lechner. Tandis qu'en 8e journée, la Serbie gagnait en Lituanie grâce à un doublé de Mitrovic contre un but de Kazlauskas à Vilnius, dans le stade LFF. Et le Portugal s'inclinait, lui, dans ce temps, en Ukraine, 2-1. Yaremchuk Yarmolenko pour les Ukrainiens contre le 700e but en carrière de Cristiano Ronaldo CR700. Du coup, sur penalty. Voilà. Et ça nous donne l'Ukraine qualifiée et assurée de la première place avec 19 points. Le Portugal et la Serbie vont se battre pour la 2e place, sachant que le perdant ira en barrage de la Ligue des Nations.
Il n'y aura pas de Portugal-Serbie, hein. Les deux matchs ont déjà été joués.
Mathématiquement, le Luxembourg peut encore finir 3e, mais on n'y croit pas. Ils sont donc actuellement 4e avec 4 points, et la Lituanie ferme la marche avec 1 point. Et mais toujours, là, elle, par contre, elle est espérée sauver l'honneur. Enfin, je suis content, ça va un peu...
Il est plié.
Ouais, ça va un peu... Ben non, quand même, mais entre le Portugal et la Serbie...
Mais non, parce que il reste comme match Serbie-Luxembourg, Serbie-Ukraine... Et pendant ce temps, il reste Portugal, Lituanie, Luxembourg, Portugal. Autant te dire que je vois pas les Portugais ne pas prendre 6 points.
On sait jamais, hein, petit baroud d'honneur des Luxembourgeois. Mais bon, ça va un petit peu les calmer, là. Ils avaient pris la grosse tête, ils se voyaient déjà qualifiés à l'Euro et tout. Oui, le Luxembourgeois prend facilement la grosse tête, hein. Le boulard. Je me demande d'ailleurs si Mbappé il est pas luxembourgeois quelque part dans son arbre généalogique parce que tu comprends, Paris Saint-Germain peut rien faire sans moi.
L'idée c'est de montrer que je suis indispensable.
Voilà.
Non, mais je respecte. Qu'on en discute de mon contrat au Footpod.
Ouais, bah faut, on verra ça, hein, quand tu rentreras en cours de Footpod et que tu inscriras un triplé de blagues en moins de 5 minutes. En attendant, on va voir si dans le groupe C, t'arriveras à faire un jeu de mots.
Mais c'est la faute de l'entraîneur.
Un petit jeu de mots, là, sur le 0-0, Biélorussie-Estonie. Heureusement, il y a eu un petit carton de chaque côté pour occuper Ricardo de Bogos, l'arbitre espagnol, qui s'emmerdait ferme au stade Dynamo de Minsk.
Du coup, c'était pas dynamique?
Non, c'est là que je la valide pas. Non. Tu feras peut-être mieux sur les Pays-Bas qui se sont imposés 3-1 en Irlande du Nord en attendant la 80e minute pour se mettre en route, hein, avec Depay. Je sais toujours pas comment ça se prononce puisque chaque commentateur...
Non mais après le but nord-irlandais, les Pays-Bas, ils ont su s'élever.
De Jong, le 2e à la 91e, et Depay remarque le 3e, c'est un petit doublé, à 94e.
C'était pas en Irlande du Nord, c'était aux Pays-Bas. Hein.
J'ai jamais dit que c'était en Irlande du Nord.
Si t'as dit les Pays-Bas sont imposés en Irlande du Nord.
Face à l'Irlande du Nord, j'ai dû dire. En tout cas, j'avais l'intention de le dire.
Alors, si monsieur avait l'intention.
Voilà. C'est l'intention qui compte. Voilà.
Je la voyais venir, celle-là.
Au stade de Kuip de Rotterdam. Donc, un match totalement aléatoire, hein, puisque c'était Benoît Bastien au sifflet. Hein, donc.
Ben, honnêtement, je moi, pense je que me quand, suis bien paré. Hein.
Même fils de paille, il est arrivé sur le terrain, il a vu l'arbitre, il a fait « Oh merde !» Et les gars, attention, ça va être n'importe quoi l'arbitrage.
Ben, honnêtement, moi, j'y ai cru, puis les Nord-Irlandais ont craqué, quoi, mais...
Avec cet arbitre d'origine spinalienne.
Si vous le dites.
C'est-à-dire les Spinaliens, quelle ville? Monsieur le géographe.
Épinal, non?
Ouais. Bien.
J'ai encore un peu de bol au pifomètre.
Ouais, on sent que t'es prof, hein. Si c'est pas écrit dans le livre que t'es en train de lire aux élèves, tu sais plus.
Je t'emmerde.
Bref.
C'est pas parce que tu me parles d'Épinal que t'as besoin de me faire un dessin.
Non, mais si tu en mangeais un peu plus, tu serais plus fort. Des Épinal.
Oui, ça va, tu vas pas me faire une image non plus.
Bref. Les Pays-Bas se sont rendus en Biélorussie. C'est assez clair, là, pour toi?
Mais la Russe.
Lors de la 8e journée, le 13 octobre, au stade Dynamo de Minsk, devant l'arbitre grec Tassos Sidiropoulos, et c'est Vijnaldum qui a réalisé un petit doublé pour permettre aux Pays-Bas de s'imposer 2-1 grâce donc ce doublé de Vijnaldum, mais la réduction du score a été signée Dragan, ça fait marseillais là. Moi t'es trop Dragan toi. Tandis que les Allemands s'étaient décidés tiens à jouer. Hein, on s'est dit non la 7e journée on joue pas, mais la 8e on va aller taper 3-0 l'Estonie à Tallinn, à Le Coq Arena.
En même temps, c'était obligatoire Gudogan... qu'ils leur en mettent au moins 3. Ils en avaient mis 8 en joueur. Donc,
Gudogan s'offre un petit doublé et Timo Werner, à la 71e, marque. Et en plus, ils ont fait ça en jouant 75 minutes à 10, hein, les Allemands, tant qu'à faire. Et ça nous donne donc au classement les Pays-Bas barragistes, premier à égalité avec l'Allemagne, mais les devançant au goal average particulier. Ouais. Tandis que l'Irlande du Nord est troisième avec 12 points, oui, ils ont marqué 8 buts par contre. Voilà, la Biélorussie ira en barrage de la Ligue des Nations et est éliminée définitivement par contre par la voie des European Qualifiers, mais il reste la chance par le barrage de la Ligue des Nations. Tandis que l'Estonie, un petit
point. Ça s'appelle les UEFA Euro 2020 Playoffs. DM.
Ouais, si tu le dis, mais non, je veux pas faire souffrir tous les anglophones qui nous écoutent.
Appelle les players.
Donc l'Estonie ferme la marche avec le petit point de l'honneur.
Qu'ils ont pris contre je sais pas qui d'ailleurs. Parce que si, ils ont fait 0-0 contre la Biélorussie.
Putain, mais ça se joue quand même à un seul petit but, quoi. L'Allemagne s'était imposée 3-2 aux Pays-Bas, et ils ont perdu 4-2 chez eux. Voilà. Donc en fait, ces petits buts de Vijnaldum à la 91e, le 6 septembre, qui permet aux Pays-Bas de devancer l'Allemagne. Sans ce petit but, l'Allemagne serait devant au goal average général. Ouais. Parce qu'il serait égalité sur le goal average particulier. Donc, Vijnaldum, ça va être le héros. Par contre, c'est pas encore joué, hein, là, pour le coup. Irlande du Nord, Pays-Bas le 16 novembre, tandis qu'après ils vont jouer l'Allemagne.
C'est ce que j'allais dire, ça va être compliqué pour les Nord-Irlandais quand même, parce qu'il faut deux grosses victoires, sachant qu'ils ont perdu contre l'Allemagne.
On peut finir avec un groupe avec trois équipes à 18 points et se jouer à la différence de but particulière, ça peut être très très chaud.
Ouais, mais justement, à la différence de but particulière, les Nord-Irlandais, ils partent quand même avec un petit handicap. Ils ont perdu de 2 buts aux Pays-Bas. Donc là, s'ils gagnent 2-0, ça suffit. Par contre, ils ont pris 0-2 à domicile contre l'Allemagne, donc il faut qu'ils en mettent 3, quoi.
Ou 0-2 minimum, il faut qu'ils gagnent 2-0, quoi, pour égaler l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui est finalement qui a gros à perdre, hein, parce que ils peuvent se retrouver troisième, hein, du fait qu'ils sont automatiquement devancés par les Pays-Bas. Il faut pas qu'ils se vautrent contre l'Irlande du Nord, à Francfort le 19 novembre prochain. Parce que s'ils venaient
déjà,
à
ils pourront voir venir la septième la huitième journée pardon de ce groupe.
Neuvième,
pardon.
Pour en Biélorussie.
Enfin, ils reçoivent la Biélorussie. Biélorussie et Irlande du Nord, Pays-Bas. Oui. Déjà, si les Nord-Irlandais gagnent pas face aux Pays-Bas, les Allemands ils vont venir.
Voilà, parce que les Allemands, de toute façon, a priori, devraient battre les Biélorusses.
Parce que c'est bien beau d'en mettre 8 à Dijon, mais à mon avis, l'Allemagne, ils en mettront aussi 8 à la Biélorussie.
Bah non, là, du coup, c'est bien beau d'en mettre 8 à l'Estonie, mais... Oui, c'est sûr que ça tout peut être joué. L'Allemagne bat la Biélorussie, l'Irlande du Nord s'impose pas face aux Pays-Bas, l'Irlande du Nord est éliminée. Donc, le dernier match, Allemagne du Nord contre Apport du Beurre. Donc, ouais, mais tu vois, c'est... Il y a encore des groupes...
Sauf s'ils comptent pour du schnapps.
Il y a encore des groupes où il y a un vrai intérêt, quoi, finalement. Là, j'ai presque envie, tu vois, qu'ils nous fassent une petite Islande, quoi, l'Irlande du Nord. Ça serait sympa, quoi. Islande 2016, Irlande du Nord 2020, ça serait sympa.
Ouais, mais je te rappelle que pour le système de qualification de 2016, il y avait 3 équipes par poule qui passaient.
Ah, ouais, mais finalement, tu vois... Quand t'es une équipe comme l'Irlande du Nord, c'est presque inespéré de se dire j'ai encore une chance à 2 journées de la fin dans un groupe avec l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc voilà, se dire foirer la qualification comme ça au dernier moment, ça serait rageant quoi.
Parce que l'Irlande du Nord n'a pas grand-chose à perdre parce que dans la
c'est finalement là, hein, c'est
via la Ligue des Nations, ils sont qualifiés l'Irlande du Nord actuellement, hein, donc via la Ligue des Nations ça passe. Donc je pense qu'effectivement ils n'ont pas grand-chose à perdre.
Ouais, mais finalement c'est là que c'est dommage. C'est aux Pays-Bas, voilà, ils menaient 1-0 et ils craquent, voilà, à 80e minute de jeu. Ils ont, c'est ça, ils ont tout perdu sur cette 80e, enfin, sur les 10 dernières minutes, quoi. C'est dommage. Parce que là, ça aurait tout changé, hein, mine de rien. S'ils parvenaient à s'imposer face à l'Irlande du Nord, ils conservaient leur tir 1-0 contre les Pays-Bas, bah c'était eux qui se retrouvaient avec 15 points et les Pays-Bas avec 12. Et là, ça aurait tout changé, hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et dans le groupe D, on va voir tout de suite si les choses sont plus claires. Un petit match nul 0-0 et un partout au niveau des cartons entre la Géorgie et l'Irlande, tout court. Ah, Tbilissi. Voilà, tout à fait. Tandis que les Suisses se sont inclinés au Danemark, but de Poulsen à Copenhague. Tandis qu'il y avait un petit 2-2 au niveau des cartons, hein, grâce à une formidable égalisation de Dalsgaard à la 92e. Tandis que dans la 8e journée, Gibraltar, ah, ils y croyaient, hein, ils tenaient, ils étaient menés 2-0 par les Géorgiens. Il remonte à 2 partout, et voilà, Kvilitsaya, qui à la 84e, pardon, les achève, et s'incline donc 2-3 au Victoria Stadium de Gibraltar,
devant 1455. À noter quand même que c'est les deux premiers buts de Gibraltar dans les éliminatoires de l'Euro 2020.
Ouais. Cassiaro et Cipollina. 1455 spectateurs quand même. Hein.
Gibraltar, Saint-Marin, il y a de quoi déprimer quand même, parce que c'est des équipes qui sont faites pour en prendre 8 par match.
Attends, non mais attends, il y a 1455 habitants à Gibraltar.
Oui, il doit y avoir. Mais...
L'équipe de... je vais dire ça tout de suite. Alors, Gibraltar... Oh merde, 32 247 habitants en 2016. Quand même une densité de 4742 habitants par kilomètre carré. C'est ouf, ça fait beaucoup, hein. Ah ouais. Ah, là je t'ai cloué, hein, monsieur.
Ah oui, là oui, tu m'as tué.
Non, Wiki t'a tué.
Non, c'est Omar. On peut pas la faire celle-là, je crois. Elle est un peu limite.
Bah ouais, c'est surtout qu'ils sont plus très frais, hein, depuis le temps. Ah oui, à la France, on a une densité de 100,8 habitants par kilomètre carré. Enfin, ils sont vraiment entassés, hein, Gibraltar.
100,8?
Ouais.
J'aurais dit qu'en France, elle était à 115, moi.
Bah, c'est les derniers chiffres donnés par je ne sais qui, parce que j'ai plus la page, t'es chié, tu pouvais pas réagir plus tôt.
Non, mais laisse tomber, ça va être l'INSEE. Okay.
Ouais, ou c'est les chiffres du gouvernement, hein. Alors, cette valeur concerne toute la France.
Ah, du coup, ils sont pas vrais.
Cette valeur concerne toute la France métropolitaine et département d'outre-mer. La densité de la population en France métropolitaine est de 117,9 habitants par
kilomètre. J'étais pas loin avec mon 114. Hein.
Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans les dom-tom.
C'est les drones, monsieur.
Ouais, ça sera toujours les dom-tom pour moi. Et également pour Seferovic et Duffy contre son camp, un 93e qui ont permis à la Suisse de s'imposer 2-0 face et à l'Irlande.
Et du coup, Duffy, il fait le canard.
Non, mais je me demande si son prénom, c'est Guillaume.
Arrête, elle était bien, ma blague.
C'est Shane.
Duffy, il fait le canard.
Oui, oui, je suis sûr hein, qu'elle est bien. Il faudra juste que je la comprenne un jour.
Duffy Duck.
Ah oui, d'accord. Oui, non. Non, 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 non. Bref. Oh, allez, bon, un demi-point pour cette blague, voilà. Et c'est le bordel dans ce classement. Parce que quatre équipes peuvent encore se qualifier. Hein.
Tandis que Gibraltar, je comprends rien, c'est classé ou c'est le bordel ?
Gibraltar, eux, sont assurés de finir dernier, hein, donc là, c'est sûr. C'est au moins ça qui est acquis. Mais nous avons l'Irlande en tête avec 12 points, devant le Danemark, 12 points, mais qui est au barrage avec des nations. Devant la Suisse, 3e avec 11 points. Devant Géorgie, 8 points, sachant que la Suisse et la Géorgie vont en barrage,
avec des nations.
Voilà. Et là, me demande pas les goals averages particuliers, hein, parce que c'est la merde. Hein. Sachant que le Danemark l'a bien dans le... avec l'Irlande, hein, puisque l'Irlande a une différence générale de plus 2, le Danemark plus 11, mais ils sont derrière. Et qu'en 9e journée, le Danemark va à Gibraltar, reçoit l'Irlande, tandis que la Suisse reçoit la Géorgie et va à Gibraltar.
Non, mais c'est pour ça qu'il y a l'UEFA Emergency Panel, c'est pour ce genre de situation.
Ouais, non, mais c'est ça, finalement, les désavantagés, c'est l'Irlande et la Géorgie qui ont un match de plus. Donc, en fait, non, la Géorgie peut plus se qualifier, en fait. J'ai dit une bêtise. Ils peuvent plus finir qu'à 11 points, et 11 points, c'est la 3e place. Ils ne peuvent plus se qualifier par le biais des European Qualifiers. Donc, il reste, ça va, ça simplifie les choses. Il reste plus que l'Irlande, le Danemark et la Suisse. Sachant que l'Irlande a le désavantage d'avoir un match de moins que le Danemark et la Suisse. Sachant que le Danemark, le Danemark et la Suisse vont jouer déjà Gibraltar, tous les deux. Pas en même temps, hein, mais. Donc, ouais, c'est sûr que l'Irlande ils doivent impérativement battre le Danemark en dernier match à la 10e journée, le 18 novembre, à Dublin. Le feront-ils? Eh bien, nous le saurons le 18 novembre. Bah, suspense. Allez, penchons-nous sur le groupe suivant.
C'était quoi ce suspense?
J'essaie de d'enchaîner. Ah, le groupe E. Nos amis croates ont marqué 3 buts aux Hongrois à Split, et avec vraiment un événement, hein, l'événement de cette saison 2019-2020, Modric a marqué un but, le Ballon d'Or, qui n'est même pas dans la liste des 30 cette année.
Du coup, est-ce qu'on peut dire que ce but à Split a divisé?
Non, mais il a permis de doubler, celui de Petkovic à 24e et à 42e. Tandis que, à la même heure, la Slovaquie était tenue en échec chez elle, un partout, par le Pays de Galles, qui avait ouvert le score par Moore. Kukayan, ça va?
Karacha.
Tu me files un Coca-Cola? Bref. À Trnava. Bref. Au stade Antona Malitinskego. Putain, Karin Galli, viens dire, c'était quoi ce pays? T'as dû y aller en Europa League il y a 2 ans ou 3 ans pour W9. Heureusement, il y a la Groupama Arena, à pas confondre avec le Groupama Stadium, parce que Budapest n'est pas à Lyon et Lyon n'est pas à Budapest. Et d'ailleurs, le Groupama Stadium n'est même pas à Lyon, il est à Décines. Bref.
Dixit, le président de la Juve.
Groupama Arena de Budapest a vu la victoire hongroise Korut, qui a permis à donc la Hongrie, son pays, sa patrie, de s'imposer 1-0 face à l'Azerbaïdjan, qui là par contre a cartonné, hein, ils en ont pris 5 des jaunes. 93e, 2 à 93e et 1 à 95e. En plus, on sent qu'ils étaient bien énervés, hein, par les Hongrois. Tandis que le Pays de Galles devait concéder le match nul à Cardiff face à la Croatie. Belle répondant à un but de Vlasic.
Ouais. Et ça, c'est les Gallois que ça met dedans. Hein.
Ça, si, c'est un événement. Belle a marqué un but. Tu te rends compte, c'est le groupe qui a quand même vu Belle et Modric jouer. Tu sais, c'est un peu comme le Metz PSG que nous avons eu au fin août, où les spectateurs de Sassafouria ont eu le bonheur, la joie, l'étonnement de voir Ressé jouer avec le maillot du PSG. C'est peut-être nous les derniers à avoir vu le fameux Ressé avec le maillot du PSG sur un terrain. Ben là, eux, ils ont vu Bale et Modric sur un terrain et en plus marquer un but. C'est magnifique. Ah, et ce qui nous donne un petit espoir pour les Slovaques qui ont un match moins que les Croates et les Hongrois, mais 4 et 2 points de moins. Ce qui, en langage clair, donne la première place à la Croatie, 14 points, la deuxième à la Hongrie, 12, troisième à la Slovaquie, 10, le Pays de Galles, 8, et l'Azerbaïdjan est éliminé. Là encore, c'est jouable. Alors, le Pays de Galles peut finir à 14 points. Hein.
Le Pays de Galles, il va jouer l'Azerbaïdjan. Donc, je vois pas les Gallois pas en mettre 2 ou 3 à l'Azerbaïdjan. Et la Slovaquie va aussi jouer l'Azerbaïdjan. Donc, je vois pas la Slovaquie ne pas en mettre au moins 1 ou 2 à l'Azerbaïdjan. Il reste Croatie-Slovaquie. Ça va avoir de l'or. Et il reste...
Pays de Galles-Hongrie.
Hongrie. Et celui-là, il faudra pas le louper, je pense.
Ouais. Donc, voilà. Là, pour le coup... Contrairement au groupe précédent, c'est jouable, sachant que oui, donc le Pays de Galles et la Slovaquie peuvent aller à 14 et 16 points, tandis que la Hongrie ne peut aller qu'à 15 points, mathématiquement. Donc, ils ont un match de plus. Ouais, donc en fait, les Hongrois semblent en position, mais voilà, ils ont the match. The match à Cardiff qu'il faut pas rater, c'est vraiment
Il passe un nul, en fait. Il faut qu'ils visent le nul, les Hongrois. Mais pas qu'ils le jouent, parce que si tu joues nul sur un terrain, c'est le meilleur moyen de perdre.
Surtout face aux Gallois qui, comme tu dis, risquent d'être hyper motivés parce qu'il y aura la qualif à aller chercher. La qualif, elle est quasiment pliée si les Croates battent les Slovaques. Hein, vu que les Slovaques en dernier match jouent l'Azerbaïdjan, il vaudra peut-être rien le match. Les Croates auraient 17 points, les Slovaques pourraient arriver à 13 points et voilà. Bref, on verra ça.
Les Croates qui jouent pas l'Azerbaïdjan, c'est les Gallois.
On verra ça. On verra ça dans la deuxième moitié du mois de novembre. Là, penchons-nous enfin sur les vrais groupes. Ceux à 6 équipes. Encore un peu plus de matchs. Pour notre plaisir. Dont la belle victoire roumaine à Torshavn. C'est aux îles Féroé, hein, pour info. Avec un magnifique arbitre Azerbaïdjan. Né.
Azeri, non?
Si tu veux, oui, mais ça fait bien azerbaïdjanais, ça sonne mieux que azerbaïdjanois, même si c'est faux.
Oui, bah. Azeri, quand j'ai entendu prononcer ce mot-là.
Tant qu'à être faux, autant que ça soit agréable à l'oreille. Pushkas, Mitrita et Kecheru pour les Roumains, contre personne pour les îles Féroé. Hein, donc, heureusement, ils se rattrapent, ils gagnent 4-3 au carton jaune. Dans le même temps, mais avec 2h45 de décalage. 3h45 de décalage. À Takali, à Malte, hein, pour info. La Suède en a mis 4 à l'équipe haute. Malte, du coup. Danielson, Larsson, Agius, Larsson. Tandis que... La vraie surprise était à Oslo. Puisque la Norvège... avec un pénalty à la 94e minute, arrive à tenir en échec les Espagnols. Oui, on dit pas les Espagnols, là, hein, non. Les Espagnols.
Oui.
Les Espagnolettes.
Comme la fenêtre.
Voilà. Niguez avait marqué pour heureusement, j'ai pas dit les Espagouins. Hein. Bref. Les Espagnols. Et c'est vraiment... ils sont complètement craqués, les Espagnols. Et surtout, derrière, 8e journée, ils se rattrapent pas, puisqu'ils vont faire un partout également en Suède, grâce au fantastique arbitrage de Clément Turpin à Solna. Et encore là, ils ont eu très 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 chaud, quoi. Il a fallu une égalisation à la 92e de Rodrigo pour répondre au but de Berg.
Bah, c'est-à-dire, autant contre la Norvège, ils ont merdé, autant contre la Suède, bah non, quoi. C'est un peu les Suédois qui ont contrôlé un peu mieux.
Ouais. Et dans le même temps, mais avec une heure de décalage, la Roumanie faisait un partout chez eux à Bucarest face à la Norvège. Mitrita marque à nouveau contre un but de Sorlot, mais comme c'est le haut barré, ça doit pas se prononcer comme ça, qui permettait aussi à la 92e de sauver les meubles pour les Norvégiens. Et les trois premiers points des îles Féroé qui se sont imposés 1-0 face à Malte chez eux grâce à un but de Baldvinsson sur une passe de Hendriksson.
Ce qui fait qu'à la différence de but direct, les îles Féroé sont devant Malte puisque Malte s'était imposé en mars 2-1.
Alors qu'à la différence de but générale, ils sont derrière parce qu'ils en ont pris, enfin, ils sont à moins 19 contre moins 16 pour Malte. Voilà.
Du Malte de 16 ans, c'est pas mal.
Dans le même temps, a priori, malgré les deux matchs, l'Espagne aurait pu valider la qualif, hein, mais c'est pas encore fait. Mathématiquement, les Roumains peuvent encore aller les chercher. Mais bon, ils ont quand même 6 points de retard, donc il reste 6 points à prendre.
Il faudrait surtout que l'Espagne perde contre Malte.
Vu que Malte a bien réussi à perdre contre les îles Féroé, tout est possible, hein, maintenant. C'est-à-dire que Malte était persuadé avec ses 3 petits points de réussir à tenir la 5e place, hein. Maintenant, il faut qu'ils aillent la rechercher, la 5e place, hein. Attention! Je trouve que les Espagnols, ils sont pas au mieux, hein. Ils sont un peu en mode feignasse. Ça me rappelle un peu une certaine équipe, tricolore, en octobre et novembre 93, où c'est bon, il faut prendre un point contre Israël et la Bulgarie, ça va, quoi. Hein? Bref.
Ou en Ligue des Nations, c'est bon, on a besoin que d'un nul contre les Pays-Bas.
Bref, donc du coup, l'Espagne, 20 points en tête de du groupe, et a priori terminera première, hein, puisque la Suède est deuxième, mais n'a que 15 points. La Roumanie, donc je l'ai dit, troisième, 14 points. La Norvège, 11 points, mais ils ont le rattrapage barrage Ligue des Nations. Même si, enfin voilà, c'est mathématiquement jouable d'aller chercher la deuxième place pour les Norvégiens, mais on n'y croit pas. Et donc, le vrai combat, ça sera donc entre les îles Féroé et Malte, pour savoir qui finira sixième. ça va quand même être compliqué pour les Roumains qui vont recevoir les Suédois, puis aller en Espagne. C'est pour ça, je veux dire, mathématiquement, c'est faisable, mais ça semble quand même compliqué. Et pour les Norvégiens...
Au pire, les Roumains, ils ont la Ligue des Nations.
Mais par contre, les Norvégiens, ils reçoivent les îles Féroé, puis ils vont à Malte. Donc, ils devraient pouvoir faire le plein et engranger 6 points. Donc, il faut que la Suède et la Roumanie chopent une victoire, un minimum, hein, dans les deux matchs restants. Et y a un petit Roumanie...
La Norvège, ils ont la Ligue des Nations. Je sais pas s'ils se qualifient, qui prend leur place. Je crois que c'est la Suède, justement.
Ouais, et puis, il y a un petit Roumanie-Suède là qui se profile. Donc le vainqueur obtient son ticket, quoi. Roumanie-Suède, le vainqueur obtient son ticket par les European Qualifiers. Bref, ça va être passionnant. J'en suis sûr. J'en ai sûr, n'est-ce pas, Yann?
Mais j'en suis certain.
Voilà, tout à fait.
Et vérifier effectivement si la Norvège ou la Roumanie se qualifiait, la Suède se retrouverait en playoffs.
Voilà. Enchaînons donc avec le groupe G. Le groupe G qui possède également 6 équipes. Ah, maintenant, on n'a plus que des groupes à 6 équipes. L'Autriche, 3-1 contre Israël. Lazaro, Hinteregger, Sabitzer contre un but de Zahavi. 2-1 pour la Macédoine du Nord face à Slovénie, donc à Skopje. Elmas, un petit doublé contre un pénalty de Ilic. Et la Lettonie s'incline chez elle, 3-0, triplé de Lewandowski pour la Pologne, au stade de Riga. En Lettonie.
Ouais.
8e journée, la Pologne continue le carton plein. Ce coup-ci, Lewandowski se dit, c'est bon, j'ai marqué 3 buts, donc je vais faire 2 passes décisives pour la victoire 2-0 face à Macédoine du Nord. Donc, passes décisives pour Frankowski et Milik. L'Autriche, elle va s'imposer 1-0 en Slovénie. Et Israël, c'est bien connu, Israël, hein, centre de l'Europe, hein, bien sûr, qui a battu l'équipe de Lettonie 3-1. Les Lettons. Voilà. Et ce qui nous donne donc au classement, la Pologne, 19 points qualifiés. L'Autriche, 16 points presque qualifiés, puisque derrière Macédoine du Nord, la Slovénie et Israël se battent à 11 points. Et ben c'est fini par contre pour les Lettons avec 0 points, qui sont quand même en bonne position pour être dernier des derniers hein, dans le classement général de tous les groupes. On y croit, en plus, ils ont moins 25 en différence de buts. 2 buts marqués, 27 encaissés. Ouf. Ah, ils étaient chauds hein, sur ces qualifications, les Lettoniens. Hein. Sachant qu'ils vont jouer la Slovénie, vont jouer en Slovénie, pardon, à 9e journée, et reçoivent l'Autriche à la dernière journée. Il y a pas, enfin voilà, c'est vraiment le groupe où qui ressort fou quoi. Les Polonais vont encore terminer probablement avec 25 points sur combien possible, sur 30 possibles, et ils vont se faire sortir avec un point en poule comme d'hab quoi.
Ah, je les vois passer les poules et aller en huitième quand même.
Oui, mais on dit ça en 2014, en 2016, en 2018, ils passent jamais.
Ouais,
le problème, c'est que Lewandowski, quand
en 2014 et en 2018, t'en avais pas potentiellement trois par poule qui passaient. À l'Euro 2016 aussi, il y avait trois équipes qui passaient. Rappelle-toi le Portugal qui passe au meilleur troisième.
Ouais.
Non, mais c'est ça, quoi.
Je suis d'accord, le problème, c'est que la Pologne, tout repose sur Lewandowski. Et au mois de juin, il est carbonisé, Lewandowski. C'est ça le problème. C'est vraiment une équipe qui ne repose que sur Lewandowski. Le reste, là où le Portugal a la différence, c'est que tu peux te passer Cristiano, ils arrivent quand même à faire des résultats, les Portugais. Sans CR700. Donc, là, les Polonais, c'est trop, c'est, pauvres Polonais. Bref, groupe I. Un groupe qui a vu la victoire de Chypre au Kazakhstan.
C'est vrai que j'oubliais que tu connaissais pas ton alphabet.
Un ours sultan. Donc Sotiriou et Ioannou, sans déconner, Ioannou, c'est peut-être Loanou, je ne sais pas si c'est un I majuscule ou un L, bref, Yerlanov.
Regarde dans les autres noms si c'est un I majuscule ou pas, si c'est un majuscule ou pas.
Ben oui, ça doit être un I, donc c'est Ioannou, bref, je pense que tout le monde s'en fout en fait, hein, sauf éventuel... auditeur chypriote francophone. Et on te salue, parce que bravo. Dans le même temps, les Belges ont eu un mal de chien s'imposer à Bruxelles face à San Marin. 9-0. Avec beaucoup de buteurs, en plus. Parce qu'il n'y a que un doublé de Lukaku, sinon c'est Chadli, Broly, contre son camp. Je le savais, elle prononçait à une époque. Alderweireld, Tillmans, Benteke et Verscheren. Et Castagne. J'ai oublié Castagne. Il allait me taper si j'oubliais Castagne. À Moscou. L'Écosse a eu, pas de chance. Ils sont pris 4-0. C'est tombé sur le match où la Russie avait envie, hein. La Russie, c'est très particulier. Il y a des matchs, tu te dis, pourquoi il y a des matchs où ils tapent les autres. Dzyuba, Ozdoyev, Zubia, Golovin. Ouais. Ça va, Golovin, on va le rajouter avec Modric et... Mec, il faut rien de la saison, mon club, il va marquer avec son équipe nationale. C'est beau.
Il faut arrêter de chercher à comprendre.
Voilà. Nour Sultan, qui après avoir accueilli Chypre, a accueilli 3 jours plus tard la Belgique. Et donc après avoir offert 2 buts à Chypre, bah, ils se sont dit, on va offrir 2 buts aux Belges. Voilà. Tandis que la Russie, elle...
Ils ont le sens de l'accueil au Kazakhstan, vraiment.
La Russie en a placé 5 à Chypre, à Nicosie. Et l'Écosse, avec le, je pense, le plus beau but de ces 2 journées. L'Écosse s'est imposée 6-0 à Glasgow face à San Marin devant l'arbitrage de Jérôme Brizard. Je savais même pas qu'on avait un arbitre qui s'appelait Jérôme Brizard. Je me demande si c'est pas lui qui a arbitré Metz-Nantes le week-end dernier. Bref.
Je me demande si ça vient pas de Ligue 2.
Non, je le sens bien, là. Jérémy Brizard, ça doit être celui qui a arbitré Metz-Nantes. Il me dit trop quelque chose. Hein. Bref, tout ça pour dire que le 6e but de l'Écosse, il est juste parfait. Il est juste parfait parce que c'est... un ballon qui arrive tranquille vers le gardien de San Marin, absolument pas un Écossais dans le camp de San Marin. Et donc le gardien, il s'empare tranquillement du ballon avec ses petites mimines. dans le quart de cercle, le demi-cercle devant la surface de réparation. Ce qui offre un coup franc pour l'Écosse. Et voilà, la doublée. Carton rouge et coup franc pour l'Écosse, c'est le coup franc qui finit au fond. C'était magnifique. Non, tu sauras qu'en août 2017, Jérôme Brizard a arbitré Caen Metz. Mais il a également arbitré Nantes 3 au mois de mars 2018, tu vois, donc il fait les deux. C'est un arbitre de fédéral.
Non mais à chaque fois, je revois le sketch d'Aimé Jacquet dans les studios de Canal pour les guignols.
Ouais, il a arbitré Nantes-Lyon le 12 avril dernier, par exemple. Mais donc il était apparemment pas au match Metz-Nantes. Donc c'est bien parce qu'en décembre 2018, il y a eu un petit scandale, hein, puisqu'il était obligé de démentir avoir chambré les propos de Diego Carlos lors du match Saint-Étienne-Nantes, tu vois. Ça me rappelle un certain arbitre qui s'amuse à rejouer des coups de coude lors de la Coupe du Monde de rugby avec les supporters.
Je vois pas de quoi tu parles. Écoute, non. Je me suis réveillé à dimanche pour voir ça, monsieur.
Écoute.
À 9h. C'est trop tôt.
Ah, mais c'est le pire, c'est qu'on a eu l'espoir, quoi. Mais on n'est pas dans le rugby pod. Alors que j'avais insisté et t'as pas voulu le faire.
Oh, l'enflure.
Bref, c'est un groupe dont la dernière journée n'aura aucun intérêt, puisque la Belgique est qualifiée avec 24 points et la Russie 21. Il reste le petit intérêt de savoir qui finira premier du groupe. Mais comme c'est hyper compliqué, même en étant en premier du groupe, t'es pas assuré d'être chapeau 1, donc je crois, peut-être. Bref, troisième chip, 10 points. L'Écosse, qui en a rien à battre puisqu'ils ont les barrages de la Ligue des Nations pour se concentrer, 9 points. Cinquième, le Kazakhstan, 7 points. Et donc, Saint-Marin, assuré tranquillement de la petite dernière place. Et donc, finalement, je pense que c'est eux les meilleurs prétendants pour l'ultime dernière place, hein, vu qu'ils ont quand même un moins 43 en différence de but, avec 0 but marqué.
Ah, les pauvres.
Ah ouais. Bah, merci les Belges, hein, déjà. Sachant que ils vont donc recevoir le Kazakhstan, puis la Russie en dernier match. Les Russes peuvent encore leur en coller quelques-uns. Ils peuvent passer la barre des moins 50. Hein. On y croit. Allez, Saint-Marin. Vous pouvez le faire. Dans le groupe J, déjà, on est sûr qu'on n'aura pas l'ultime dernier, hein, mais je vais te laisser faire les résultats un peu du groupe J.
Le groupe J, du coup.
J'en ai un peu marre, si je les ai pas sur la page Wikipédia, en plus.
Voilà. Alors, donc, en fait, il me refile la patate chaude. Donc, le groupe J, ça commençait avec le 12 octobre, un match entre la Bosnie-Herzégovine et la Finlande. 4 buts à 1 pour la Bosnie-Herzégovine.
Heureusement, la Finlande.
S'en est suivi un passionnant Liechtenstein-Arménie. Un match à faire rêver des Gianni Infantino qui les veut à la Coupe du Monde de la FIFA TM. Et ça s'est fini sur un score de 1 partout. Dans la soirée...
Quand même, tu vois, ils ont marqué des buts. C'est sympa.
Un petit Italie-Grèce dans la soirée qui s'est fini sur un franc 2-0 de la part des Italiens. 3 jours après, le mardi 15, le Liechtenstein n'était plus autant en forme parce que les Italiens en ont collé 5. 5-0 pour l'Italie.
Ah, 22.
Qui par la même occasion, l'Italie se retrouve en tête de son groupe avec 8 matchs joués, 24 points pris, donc 8 victoires. Ils font le carton plein et ils sont qualifiés. La Finlande en a collé, elle, 3 à l'Arménie. Ça permet donc à la Finlande de prendre un peu d'avance sur l'Arménie puisque désormais, la Finlande a 15 points et l'Arménie en a 10.
Et ils ont rattrapé la Grèce du barrage.
S'est imposé par la Bosnie face à la Bosnie-Herzégovine en Grèce. Ça fait bien chier la Bosnie parce que du coup la Bosnie a, alors qu'elle en avait deux de retard, elle a désormais 5 points de retard sur la Finlande. Ce qui donne au classement après 8 matchs joués, l'Italie 24 points qualifiés, la Finlande deuxième 15 points presque qualifiés puisque la Bosnie-Herzégovine et l'Arménie sont troisième avec 10 points. Donc il faudrait quand même un cataclysme finlandais, d'autant plus que la Finlande joue le Liechtenstein, donc pas les Finlandais ne pas se qualifier. La Grèce, 8 points éliminés, et le Liechtenstein, 2 points éliminés.
Ouais, non, je m'en remets pas. Et en plus, le Liechtenstein est assuré de finir dernier, puisque même s'il venait à faire carton plein et prendre 6 points sur les deux derniers matchs, et la Grèce perd ses deux matchs, ils se retrouvaient tous les deux à 8. Mais le goal average particulier, la Grèce s'étant imposée 2-0 et 1 partout à l'autre match, ils seront quand même devant. Donc oui, il y a de quoi être dégoûté hein, quand tu supportes Liechtenstein.
Ouais. Moi, c'est l'Italie qui m'impressionne, hein, honnêtement. Depuis qu'ils ne sont pas allés à la Coupe du Monde, je les trouve très très bons, les Italiens.
Impressionne. Je veux dire, c'est quand même dans un groupe. Je vois pas quelle équipe pouvait leur faire de l'ombre dans ce groupe-là, quoi.
Ouais, en même temps, vous voyez pas les Espagnols faire deux matchs nuls de suite.
37 810 habitants. 37 810 Liechtensteinois et avec 236 habitants par kilomètre carré. Hein. Ah ouais, quand même. Non mais voilà, je veux dire, honnêtement, voilà, tu pouvais pas ne pas envisager l'Italie largement première. Bon, après maintenant, à eux de verrouiller le truc et de finir avec 30 points, quoi.
C'est dans leur intérêt.
Il leur reste.
C'est dans leur intérêt, puisque du coup, on sait déjà que l'Italie, pardon.
Tu mettais la France à la place de l'Italie, hein. Nous, on aurait galéré comme des chiens, hein. Mais on aurait fait des vieux 0-0 face à la Grèce, on aurait perdu 1-0 en Bosnie ou une connerie comme ça, tu vois.
On l'a déjà fait. Il fut une époque où on l'a fait. Donc voilà, non, mais l'Italie, 24 points, c'est bien, enfin, pour eux, ils remontent un peu. Pourtant, Dieu sait que je suis pas supporter des Italiens, mais ils sont pas allés à la Coupe du Monde 2018, ils se reconstruisent derrière, quand même.
Oui, ouais, enfin bon, et il faudrait l'avoir face à une vraie équipe, quoi, sans vouloir dénigrer la Bosnie, ils sont pas dans une grande forme, la Grèce, voilà, je veux dire, personne les verrait comme un danger s'ils avaient pas eu l'Euro 2004, quoi, et c'était il y a 15 ans, donc, ouais, tu verras, il y a peut-être encore des joueurs, hein, un mec qui avait 18, 19 ans, lors de l'Euro 2004, il est peut-être toujours sélectionné hein, avec la Grèce, mais bon.
Non, mais voilà, la Grèce, c'est comme le Danemark de 92.
J'imagine au tirage, on sortait, tu vois, on se met à la place de l'Italie, hein, avec le même groupe, tout le monde, ah, oh, la chatte à Dédé, c'est bon, on est tranquille. Quand les premiers matchs sont arrivés, tu disais, ils nous ont refait la grosse pression, oh putain, ça va être compliqué, on n'y arrivera jamais. Il faut vendre du papier, hein, l'équipe. Ah là 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 là. Donc tout ça pour dire qu'il y a une transition à faire, c'est celle vers le groupe
normal,
celui d'une certaine équipe de France. Mais d'abord, attardons-nous sur le fantastique Andorre Moldavie, qui a vu la victoire andorran. C'est footballeur andorran, donc la victoire andorrane, effectivement. Ouais, je retienne ça, hein, d'un match à l'autre, mais. Tandis que les Turcs.
Comment ça retenir l'hymne de l'Andorre, déjà?
Tandis que les Turcs, ben, battaient un petit but à zéro à la 90e l'Albanie, hein. Oh putain, on y croyait, hein. Franchement, on y croyait. Et ce fantastique joueur qui est Tosun, ben, nous a fait chier, hein, parce que ça nous arrange pas. Puisque nous, dans le même temps, un petit but à zéro en Islande dans un formidable remake du France-Danemark de la Coupe du Monde 2018. Giroud est arrivé. Giroud a marqué à la 66e minute de jeu sur penalty. Généreux ou pas le penalty?
Je sais pas. Il me semble qu'il y a eu une main juste avant. Ouais, ah non, c'est contre la Turquie qu'il y a eu une main.
C'est,
pardon.
C'est pas évident, je veux dire. Ouais, enfin la touchette sur sur Griezmann, mais enfin il s'est quand même tombé, hein, tu peux pas dire le contraire, quoi. J'aime bien le côté oh maman, il est peut-être blessé, il va devoir sortir et tout. Ouais et puis il galope juste derrière.
Ça c'était pour imiter le vol d'oie sauvage.
Le Kylian Mbappé dans sa meilleure période. Bon, l'essentiel était fait, quoi. Là, pour le coup, les joueurs pouvaient, en zone mixte, derrière, dire « l'important, c'est les 3 points ».
C'est ça.
Parce que c'était chiant.
Ah, mais comme la pluie. Moi, je me souviens, j'ai vu le match. Alors, j'ai pas pu le voir en direct. Je l'ai vu avec 2 heures de décalage. Ouais, j'ai dû le voir à peu près. Tu sais, quand l'équipe lançait son replay, là, vers minuit. Mais putain, j'ai cru que j'allais m'endormir. Bon, d'ailleurs, ça a fini par arriver. Mais
ah bah t'inquiète pas, hein, tu le regardais à 21h05, tu t'endormais aussi, hein. À 20h45, pardon. C'était une lutte contre le sommeil. Mais voilà, enfin, la vraie incompréhension, c'est les Islandais, ils ont complètement refusé le jeu. Mais alors totalement, ils ont même pas essayé. C'est incompréhensible, sachant qu'ils sont. Ouais, voilà, ils étaient en position pour le machin, ils avaient besoin d'une victoire. On peut même pas dire qu'ils ont essayé de jouer les contres, hein. Je veux dire, ils en ont quasiment pas eu. Donc ils ont, je sais pas, c'est très 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 bizarre. À mon avis, ils se conservaient pour la réception d'Andorre, hein, 3 jours plus tard. Sigurðsson qui a réalisé un petit doublé. Eh non, parce que c'est Sigurðsson, mais qui se prononce pas comme ça parce que c'est un B tout bizarre. Donc, faudrait que j'ouvre mieux les yeux. Sachant que Sigurðsson a fait la passe décisive, mais c'est pas le même Sigurðsson qui a marqué le premier but. Ouais, c'est A. Sigurðsson qui a marqué le premier but et R. Sigurðsson qui offre la passe décisive à Sigurðsson. Bref, tout ça pour dire qu'ils ont gagné 2-0 contre Andorre. Et dans le même temps, l'Albanie allait taper 4-0 la Moldavie, donc en Moldavie, grâce à des buts de Sikaleshi, Barré, Trashi et Manaj. Niki Manaj, non ? Bon, bref. Tandis que la France allait s'imposer 1-0 face à la Turquie. Et manque de bol, Eyan, à la 81e minute de jeu, est passé par là pour égaliser. Donc en fait, ça a fait un partout.
Ah, mais on n'a pas été bon sur la défense de ce corner.
Ouais, c'était très bizarre. Déjà, la faute, elle était un peu inutile. La faute qui amène l'action derrière, voilà, bref. Enfin, en plus, il le savait, comme il beuglait derrière, Deschamps était fou, quoi. Il savait, hein, que les Turcs, c'était ce qu'ils allaient faire, hein. Chercher le coup de pied arrêté pour balancer et jouer de la tête parce qu'ils sont forts là-dessus. Voilà, mais là pour le coup on jouait mieux. Mais là pareil, les Turcs, ils avaient aucune ambition de jeu, quoi. Ils ont complètement bloqué derrière. Je sais même pas si Mandanda il a touché la balle en première mi-temps, quoi, en fait.
Mais en même temps, si tu regardes le classement, si les Turcs faisaient ça, ils s'assuraient potentiellement une qualification. Bah, on peut pas leur vouloir d'avoir essayé.
Ouais, enfin voilà. Enfin, quand tu vois le début du match, que tu vois la performance de Ben Yedder perdu, il est où mon Slimani ? Je veux marquer des buts. Enfin, il était complètement en perdition. Ça avait pas de sens de pas faire démarrer Giroud, même s'il avait pas 90 minutes dans les jambes. Bon, bref, je me dis ouais, bah Giroud il va rentrer à 70e et il va sauver la patrie. Bah il rentre à 71e ou 72e, je sais plus. Et 3 minutes après, boum, allez hop, but, au revoir. Tous ceux qui me critiquent, titulaire en équipe de France. Au revoir, Ben Yedder, tu peux retourner à Monaco et prévoir des vacances aux Seychelles pendant qu'il y aura l'Euro en 2020.
C'est ça. Mais il y a un Turquie-Islande là qui arrive, et je pense que celui-là, ça va sortir les Islandais définitivement.
Ça dépend, hein. Si l'Islande s'impose, c'est ça, ils calculent peut-être la super finale en se disant. Et on essaye, sans jouer, de choper un petit point face à la France, qui a failli passer, hein, d'ailleurs. Quasi tellement pas eu d'action. Voilà, et ça pouvait leur faire 16 points, et nous, on en avait 17, hein, et ils se retrouvaient en meilleure position. Mais bref, là, pour l'instant, ça fait 19 points pour la Turquie et la France, et une Turquie qui nous devance, au golavage particulier. Hein, ils ont quand même pris 4 points sur 6 face à nous, hein. Alors que nous, on a pris qu'un point sur 6 face à eux. L'Islande, 3e avec 15 points. C'est fini pour l'Albanie, 12 points, 4e position. Et évidemment, c'est fini pour également Andorre et la Moldavie, 3 points chacune. Mais Andorre devance goal average particulier et à la différence de but général, la Moldavie. Ce qui est quand même vraiment une surprise.
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Islande a accès aux playoffs. De la même façon que si l'Islande passe devant la Turquie, si j'en crois le règlement, la Turquie devrait avoir accès aux playoffs.
A priori, je pense quand même que les Turcs vont avoir au minimum 22 points, vu qu'ils vont jouer quand même Andorre en dernier match. Hein. Donc même s'ils venaient à s'incliner face à l'Islande, vu qu'ils jouent Andorre en dernier match...
Mais les autres, en Moldavie.
Ouais, voilà. Donc, oui, la vraie finale, c'est ça, c'est ce Turquie-Islande. Et surtout, nous, il faut pas qu'on lâche de points, avec la réception de la Moldavie, puis le déplacement en Albanie. C'est-à-dire que, oui, on peut se retrouver à devoir aller chercher la victoire en Albanie au dernier match, sachant que les Albanais, pour le plaisir de nous faire chier, vont nous faire une triple défense à 10 dans la surface, façon Luxembourg à Toulouse.
Tu crois qu'ils vont nous jouer l'hymne andorran?
Ah ouais, ça c'est à quoi faire, hein. Ou tu lances l'hymne italien, tu sais, tu le lances, tu le mets 5 secondes d'hymne italien, et puis tu fais, le speaker, non, on déconne. Et là, ils vont se prendre une amende de 500 000 euros par l'UEFA, suspension pendant 8 matchs du terrain, et interdiction de participer aux qualifications de l'Euro 2024, une connerie comme ça, c'est pour leur erreur. Tandis que nous, on a juste eu droit à, oh, c'est pas bien, faites plus attention la prochaine fois. Non, 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 surtout qu'en plus, oh, ok, sur glace, il y a 2 ou 3 semaines, pour recevoir les Suisses à Grenoble, ils se sont plantés d'hymne, ils ont mis l'hymne suédois au lieu de l'hymne suisse.
Ça devient notre spécialité de se gourer d'hymne.
Ouais, Suède, Suisse, ça va. Je veux dire, ouais, le mec, il faisait défiler l'hymne dans l'ordre alphabétique, ouais, il s'est planté de ligne, quoi. Suède, Suisse, bon, voilà.
Ouais, je suis persuadé que c'est ça, en plus.
Bref. Putain, on aurait jamais imaginé qu'on allait galérer comme ça dans ce groupe, quoi.
Moi non plus.
La vraie surprise, c'est les Turcs. J'aurais jamais vu les Turcs aussi forts, honnêtement. Surtout qu'ils tiennent, quoi. Je pensais, tu vois, par exemple, qu'ils feraient un bon début, mais que, genre, 6e, 7e journée, ils nous feraient 2 défaites improbables et ils seraient largués, tu vois, du coup, mais non.
Mais... Après, ils tiennent, je suis d'accord. Ils nous ont battus, et là-bas, en juin.
Ah oui, c'est le mois de juin, donc ça compte pas. Ouais. C'est bien que nous, on joue pas au mois de juin.
Après, si tu veux, la victoire en Andorre, 1-0 seulement, c'est peut-être ça qui est plus improbable. Sauf qu'il y a une époque où ils auraient fait 0-0.
Ah, mais alors, tu vois, on aurait joué sérieusement en Turquie, on les battait en Turquie, derrière, ils ont perdu en Islande, tu vois, et là, ils auraient été décrochés. Donc, ils auraient peut-être été moins motivés.
Ils auraient été décrochés, ils auraient juste eu quelques points en moins. Ils auraient été à 13, 15-13, t'aurais encore eu le Turquie-Islande qui aurait été décisif.
Et c'est vrai que ils gagnent à la 89e 1-0 chez eux face à Andorre, donc en 5e journée. Ils vont chercher le 1-0 face à l'Albanie encore une fois chez eux à 90e, donc le 11 octobre dernier. Ah ouais, c'est 4 points qui, comme tu dis, qui ne devraient pas avoir finalement, que les autres années ils n'auraient pas forcément eu, hein.
Et tu peux en ajouter un 5e avec la 85e contre nous.
Oui, voilà. Donc du coup, oui, nous on pourrait être à 21 points et eux ne seraient que à la, ils seraient 3e avec 14 points et on serait déjà qualifiés. Donc c'est vrai que finalement on se retrouve en difficulté plus par le fait que les Turcs les jouent les matchs jusqu'au terme, quoi, enfin voilà, quand même ils lâchent pas le morceau. Et ils se contentent pas du match nul, ils vont aller chercher la victoire. Donc c'est pas forcément
putain les gars, j'ai découvert un truc, les Turcs ils jouent 90 minutes. Non mais arrête, déconne, t'as découvert quoi en réalité? Justement que les Turcs.
Mais attends, arrête, il y a plein d'équipes qui est genre 80-85e. Ils sont à 0-0, ils s'arrêtent parce que c'est à ce moment-là, soit tu te lances pour aller arracher la victoire avec le risque de te prendre un contre, genre France-Biélorussie il y a 5 ou 6 ans, hein, tu vois, et on perd 1-0 chez nous, soit tu te dis, vaut mieux assurer le 0-0, et puis, Et malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui ont cette mentalité-là, hein, se dire, arriver à la 80e, quand t'as dominé 80 minutes, t'as pas réussi à marquer, te dire, on va pas se jeter désespérément, on va sécuriser le 0-0... à défaut de gagner le match. Voilà, ce qu'on n'a pas su faire, on n'a pas su sécuriser le 1-0 contre les Turcs, alors qu'on n'arrivait pas à avoir beaucoup d'occasions, à se créer beaucoup de choses. Et puis, les changements de DD, ils n'ont pas été... le changement pour faire entrer Giroud, d'accord, mais les deux autres... on cherche encore pourquoi il est rentré sur le terrain, quoi. Il connaît depuis sa première sélection, il a disparu des radars, hein, aussi bien en équipe de France qu'à Lille. Il s'est quand même mangé deux dans l'équipe, hein, le week-end dernier, quand même, dans le match de championnat. Faut le faire, hein, deux dans l'équipe. D'habitude, ouais, l'équipe, ouais, c'est toujours entre 4 et 6, parce qu'ils regardent pas les matchs, en fait. bref, tout ça pour dire, c'était passionnant, et il y a encore plein d'indécisions un peu partout, hein, surtout dans quasiment tous les groupes, à part
certains. C'est ça.
Il y a deux groupes, il n'y a plus trop d'indécisions, mais tout le reste...
Et puis on va avoir un agenda chargé en novembre.
On n'a pas tant de qualifiés que ça, hein, finalement, déjà.
Non, j'aurais dit qu'il y en aurait quelques-uns de plus. Alors quand même, il y en a 6 ou 7, si je dis pas de bêtises.
Pour l'instant, on a l'Ukraine, l'Espagne, la Pologne, la Belgique, la Russie, l'Italie. Donc ça en fait 6.
C'est déjà pas mal, hein.
Voilà. Ben ils se sont tous qualifiés là, hein, en plus il y a personne qui avait déjà validé son ticket, hein. Donc
alors c'était difficile. Hein.
Les 6 équipes qui ont validé leur ticket à la 7e journée. Personne l'a validé à la 7e. Du coup voilà. Et donc en bas de tableau San Marin, la Lettonie qui vont et Liechtenstein, Moldavie, Malte qui vont se battre leur petit 0 points, ou 2 points, ou 3 points. Faut savoir qui va finir. Et après, oui, enfin, c'est ça. Après, les groupes de 6, il va falloir calculer en retirant les points pris contre le dernier. Pff. Voilà, quoi. C'est chiant. C'est chiant.
Écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on calcule pas, qu'on laisse l'UEFA calculer, nous arnaquer, et après, on verra. On verra, je te dis, on va pas se mettre la rate au corbillon pour ça.
Ouais, d'autant plus. Non, mais tu vois, on est la France. On est vice-champion d'Europe en titre. On est champion du monde en titre. Au tirage au sort, on peut être dans le chapeau 3, dans le chapeau 2 ou dans le chapeau 1. Ça n'a pas de sens.
C'est ça.
Et je crois que le Portugal aussi, qui est champion d'Europe en titre, je crois qu'ils sont aussi et vainqueurs de la Ligue des Nations.
Tu me l'enlèves.
Je crois qu'ils peuvent être dans le chapeau 3 eux aussi. Il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises. Je dis peut-être une bêtise, mais c'est juste.
Non, ils peuvent y être. T'as raison, ils peuvent y être.
Donc ça a pas
de sens. De toute façon, l'Ukraine est déjà qualifiée et assurée d'être première de son groupe.
C'est sur cette note humoristique que nous allons partir en troisième mi-temps, hein, Yann.
Bien sûr.
Voilà.
Mais, donc, mais Nico, il faut qu'on se repose un peu avant novembre, parce qu'en novembre et début décembre, on va avoir un planning chargé.
Ben oui, les journées 9 et 10, puis derrière les tirages
au sort. Les tirages au sort des barrages, puis les tirages au sort de la phase finale, ça va faire du boulot.
Ouais, heureusement, il n'y aura plus la Coupe du Monde de rugby.
Ouais, mais heureusement surtout que d'ici là, on aura passé un peu le tirage au sort, parce que j'espère qu'on aura compris quelque chose.
Moi, ce que je regrette, c'est que tu n'as pas voulu faire de footpod sur la Coupe du Monde de foot à 6 qui se déroule en Crète.
Non, voilà, tout ça pour qu'on dise qu'on a été éliminé par la Moldavie, et ça va. La Moldavie, on l'a déjà dans notre groupe.
À la 41e, hein, vraiment, dans le temps additionnel de toute fin de match. Oh là là. Après, c'était... Franchement, quand j'ai vu le match, hein, c'était, j'ai envie de dire, mérité. Donc tout ça parce que je voulais dire au revoir, mais du coup, on l'a pas encore dit. Mais merci Yann d'être venu.
Eh ben merci Nico d'avoir présenté.
Merci d'avoir assuré le groupe de l'Italie.
Ah ouais, y a pas de quoi.
Et nous, on se retrouve le mois prochain après la 10e journée. On y verra peut-être, je dis bien peut-être, un peu plus clair.
Ouais.
On aura peut-être des nouveaux qualifiés. Voilà.
C'est ça.
Mais là, la complexité, ça sera de savoir les qualifier dans quel chapeau ils seront.
Chapeau, ils vont être.
Sachant que, même après tirage, ils peuvent changer de chapeau. À cause de la nation.
On y reviendra dans un mois.
Voilà. On a un mois pour essayer de comprendre le truc et de l'expliquer clairement. C'est deux étapes. Déjà, un, il faut comprendre. Deux, il faut être capable de l'expliquer clairement. C'est pas gagné. Je pense qu'on a plus de chances d'essayer de téléphoner au bureau de l'UEFA et demander à Janis s'il veut venir participer au footpod, en fait.
Non, je pense qu'on a plus de chance en gagnant au jeu de TF1. Qui a marqué en première mi-temps?
La question, surtout, c'est est-ce que Janis serait capable de nous l'expliquer, la règle? Pas sûr.
Et surtout qu'il est plus au bureau de l'UEFA maintenant qu'il s'est barré. Il est resté en Suisse, mais il est à la FIFA.
Oui, c'est vrai que c'est le russe, soviétique. Je sais plus comment ça s'appelle.
C'est Chéferin qui dirige l'UEFA.
Oui, c'est ça, Chéferin. Oui.
Mais celui qu'on voit dans tous les tirages au sort, c'est il a l'air aussi rigolo qu'une porte de prison. C'est Giorgio Marchetti.
Rien que le nom, ça te donne confiance.
Parce que Gianni Infantino, ça te donnait pas confiance. Mais tu vois, Gianni, il faisait des petites blagues pendant le tirage au sort, il faisait des trucs, il passait d'une langue à l'autre. Marchetti, il s'endort.
Ah, oups, la Colombie doit pas aller dans ce groupe-là. Bon, c'est pas grave.
Non, ça c'était Jérôme Valk.
On recommence.
Ça c'était Jérôme Valk, tirage au sort de la Coupe du Monde 2015 des filles.
Et personne ne dit rien, personne ne réagit. Tellement c'est chiant les tirages, ils ont réussi à rendre les tirages au sort chiants. Personne n'a capté que, oups, c'était pas le bon. Non mais, c'est quand même un moment culte ça, je veux dire.
Ouais, on a bien rigolé.
Je crois qu'on est les deux seuls dans le monde à avoir réagi au truc.
Oui. Et encore, parce qu'il y en a un des deux qui l'a mis, qui a mis le lien YouTube à l'autre.
Oui, mais on dénoncera pas qui. Voilà. Allez, au revoir, Yann.
Lequel des deux se fait chier dans sa vie pour regarder des tirages au sort? Est-ce que ça serait pas moi, par hasard?
Lequel des deux est accro aux tirages au sort? Tu vas arrêter le foot, mais tu regarderas quand même les tirages au sort, je le sens.
C'est ça.
Surtout les vieux joueurs qui te trouvent pour aller faire les tirages au sort.
C'est ça.
Ça vaut presque les tirages au sort à l'arrière-cour de la mairie de d'Épinal pour le 8e tour de la Coupe de France en direct sur Eurosport.
C'est ça. Ah, moi, avec Louis Djorkaeff. La Coupe de France, j'aimais bien. Les tirages au sort de Coupe de France, c'était rigolo quand il y avait 64 équipes.
Ça s'appelle les 32e de finale.
Oui, mais j'ai jamais dit que ça s'appelait pas comme ça.
Ah là 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 là. Allez, au revoir.
Je rappelle qu'il y a que la Ligue de football professionnel qui est capable de faire des huitièmes de finale où il y a en fait trois matchs.
Bah oui, mais il faut faire entrer les équipes européennes en demi-finale, quoi, en fait. Quart de finale, pardon. Ouais, bref, au revoir.
Assurer un titre au Racing Club de Strasbourg. Salut.
Ouais, il l'a dit.